Votre grand journal du soir jusqu'à 20h, Mathieu Bélière sur Europe 1.
Et mes invités autour de la table, laissez-moi vous les présenter. Erwan Cordeau, ingénieur spécialiste climat à l'Institut d'aménagement et d'urbanisme d'Île-de-France. Bonsoir Erwan Cordeau.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Éric Guilliardi également, climatologue à l'Institut Pierre-Simon Laplace, directeur de recherche CNRS. Vous avez notamment participé à la rédaction du 5e rapport du GIEC et c'est à cette occasion que nous nous étions rencontrés. Bonsoir Éric Guilliardi.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous également. Michel Carrière, élu depuis 2001, adjoint au maire des Mureaux. Bonsoir Michel Carrière.
Bonsoir.
On va parler de votre travail, notamment pour changer la ville. On nous dit que la ville sera invivable dans les 30 ans à venir. Alors 30, 40, 50 ans, on verra. Quelles dispositions prendre dès à présent? Faut-il fuir la ville? Je pose clairement la question à nos auditeurs. Ou la changer? 39-21, n'hésitez pas à intervenir dès maintenant. Benjamin Muller est avec nous. Bonsoir,
bonsoir
Benjamin.
Bonsoir Mathieu, bonsoir à tous.
Ça va toujours Benjamin?
Ça va, c'est très bien.
Comme chaque jour avec vous Benjamin, on voit comment les médias traitent un sujet de l'actualité. Aujourd'hui on parle de la sortie du livre de Nicolas Sarkozy.
Alors livre qui s'appelle Passion et dont évidemment tout le monde parle depuis ce matin.
Passion d'un homme pour la ville, amour ou la politique, passion qu'il suscite entre adulation et haine. On aime ou on déteste Nicolas Sarkozy, comme s'il n'existait pas de juste milieu.
Oui, c'est vrai, soit on l'adore, soit on le déteste. Sarkozy, Omblin, par exemple, vous vous situez où?
Vous avez vu, Mathieu, il a un ventilateur.
Ah oui, d'accord, c'est vrai.
C'est pratique, moi c'est mon nouvel ami dans le studio.
Très bonne stratégie pour ne pas répondre. Mais sachez que les éditorialistes sont globalement assez élogieux sur ce livre de Nicolas Sarkozy. Par exemple, Nicolas Domenac, c'était sur BFM tout à l'heure.
C'est bien écrit. C'est vivant, il écrit beaucoup mieux qu'il ne parle, hein, dire Nicolas Sarkozy.
Voilà, un compliment avec un petit tacle au niveau des genoux. Cela dit, Nicolas Canteloup semblait du même avis ce matin.
Bonjour à vous qui aimez la littérature, et je dirais la littérature, mais aussi le lisage des livres en général.
Je vous voilà, conseille franchement, allez le podcaster, allez sur Europe 1.fr, le Canteloup de ce matin, le lisage des livres, et ce livre à 7,50€ le kilo.
C'était ça.
Je vous le conseille.
Et c'est vrai que Sarkozy, il inspire toujours les humoristes, même en zappant ce matin sur Rire et Chanson, à 8h30 pile ce matin. Bah devinez quoi, parler de Sarkozy.
On commence avec la sortie événement en librairie du livre de Nicolas Sarkozy. Passion, en quelque sorte un livre de mémoire.
Ce Sarkozy. Bob sur Blas, c'est un livre à bonne image, hein, c'est un livre de poche.
Ah, c'est pas bien, on avait dit pas le physique, mais c'est pas grave, ça passe. Sur le fond, il parle de quoi Sarkozy? Il parle de qui?
C'est 358 pages sur lui quand même. Hein.
Oui.
C'est difficile à résumer, parce qu'il parle que de lui, essentiellement. Bon,
Ok, quand il parle pas que de lui, apparemment c'est pour distribuer 2-3 baffes, Jean-Michel Apathy ce matin.
François Fillon, prend cher. François Bayrou prend très cher, Ségolène Royal prend très très cher. Mmh. Ça c'est une façon de dire, eh, quand même j'étais bon. Moi.
Ouh, qu'il a l'air bien ce bouquin, on va se marrer.
Oh, que vous imitez bien Apathy.
C'est pas faux. D'ailleurs vous savez qui est très heureuse et qui se frotte les mains en ce moment? C'est l'éditrice de Sarkozy.
S'il s'est lancé dans le récit de sa vie, il y aura forcément un tome 2.
Tout ce que je peux vous dire, c'est que l'éditrice que je suis le souhaite.
Eh ben oui, tu m'étonnes. Et si on la croit, son auteur, dans son ancien président d'auteur, n'en est pas très gourmand niveau pognon.
Et je dois dire, sincèrement, que c'est un des auteurs les plus faciles en ce qui concerne les contrats. La dernière fois, j'ai une anecdote, le dernier livre, avant celui-là que j'avais fait chez Plomb, il a signé le contrat, le livre était déjà en librairie.
Mais bien sûr, il a fait tout ça gratuitement, bien sûr. Sur RTL, la question a été posée à cette éditrice. Il touche combien pour l'écriture de ce livre? J'espère qu'autour de la table, il y a quelqu'un qui est bon en maths.
Si vous en vendez 200 000, ça, vous calculez avec des droits qui sont de 12, vous faites une moyenne entre 12-14% et avec un livre qui est aux alentours de 19€.
Alors autour de la table, est-ce que quelqu'un peut nous dire combien il va toucher?
420 000.
Ah, vous êtes fort, vous êtes hyper fort, on n'est pas loin.
Non,
c'est ce que m'a dit Nicolas tout à l'heure, hein, à peu près. Quoi.
Oui, il arrondit. Évidemment, c'est vous qui tenez les comptes, Benjamin.
Absolument.
Évidemment. Merci Benjamin, il est 19h25. Europe 1. Vous restez bien sur Europe 1, hein, le réchauffement climatique et cette canicule. Alors je sais bien qu'il ne faut pas mélanger météo et climat. Cela dit, on nous dit que ces épisodes vont se répéter, qu'ils vont s'intensifier. On nous dit que nos villes seront invivables d'ici 30 ans. Quelles dispositions prendre dès à présent? Faut-il fuir la ville ou la changer? Qu'attendez-vous de vos élus locaux aussi? 3921, le hashtag Europe 1 pour intervenir avec mes invités.
Vos invités Mathieu Bélière jusqu'à 20h. Erwan Cordeau, ingénieur, spécialiste climat à l'Institut d'aménagement et d'urbanisme d'Île-de-France. Michel Carrière, élu depuis 2001, adjoint au maire des Mureaux, chargé du développement durable, de l'environnement, de la mobilité. Éric Guilliardi, climatologue à l'Institut Pierre-Simon Laplace, directeur de recherche CNRS.
Alors, je voudrais en préambule poser une question à Éric Guilliardi, climatologue. Contre le réchauffement climatique, on est d'accord que la ville, c'est mieux. L'habitat, la maison individuelle, c'est ce que vous condamnerez le plus, j'imagine, en termes d'émissions de gaz à effet de serre.
Alors, effectivement, les émissions en ville par habitant sont moins élevées. Pourquoi ? Parce que les logements, il y a moins besoin de les isoler. Hein. Ça, je pense que d'autres personnes autour de la table pourront mieux nous expliquer que ça. Mais aussi, ça limite les transports. Aujourd'hui, 50% en France des émissions de dioxyde de carbone qui sont responsables du réchauffement climatique sont liées au transport et au logement, donc à l'habitat.
Effectivement, Erwan Cordeau, simplement, pour démarrer, parce qu'on posait la question, je demandais à nos auditeurs, est-ce qu'il faut fuir la ville ? Quand on habite dans un immeuble, le deuxième étage chauffe le troisième, qui chauffe le quatrième, et ainsi de suite. On a moins besoin d'utiliser, par exemple, d'énergie fossile pour chauffer.
Exactement. Donc, entre une maison qui propose beaucoup de surface ouverte au reste de son environnement et un immeuble où tous les appartements sont contigus les uns aux autres, donc effectivement, il y a des bénéfices pour l'immeuble. Il y a moins de déperditions énergétiques, par exemple. Et donc, on a un avantage du point de vue des émissions de gaz à effet de serre.
Alors, Michel Carrière, vous êtes adjoint au maire des Mureaux. Simplement une question pour démarrer, hein, parce qu'on a peut-être séparé, coupé le monde urbain du monde rural. Aujourd'hui, vous, votre travail, j'ai l'impression qu'il consiste à réintégrer de la nature dans l'espace urbain.
Pas du tout. Ce qu'on confond facilement, c'est la nature et le végétal. La nature, c'est un monde spécifique, problématique. Le végétal, c'est autre chose. Planter 2500 arbres comme l'on a fait, c'est autre chose, c'est pas la nature. Mais on peut admettre que ce sont des éléments de nature. D'ailleurs, il n'y a pas de biodiversité en ville, il faut la faire revenir. Et pour cela, il faut travailler un triptyque tout simple, c'est l'eau, la pleine terre et le végétal. Et à ce moment-là, effectivement, on se retrouve avec des îlots de fraîcheur. Il faut le plus possible désimperméabiliser, donc infiltrer l'eau. C'est autre chose. C'est pas nécessairement.
C'est pas la nature.
C'est pas la nature.
C'est une autre ville.
Un bonsaï n'est pas une forêt. Vous pouvez avoir une forêt de bonsaï, mais ce n'est pas la forêt. Donc il ne faut pas se tromper. Après, la nature a des fonctionnements spécifiques. Nous, ce qu'on essaie de faire, c'est remettre en ville des systèmes complètement, pratiquement naturels. Par exemple, l'eau dans la ville. Alors, faire une ville avec un fonctionnement écologique, ça veut dire quoi ? Ben, nous, on a supprimé 11 km de réseau d'eau pluviale. Ça ne pose aucun problème. On a remplacé ça par des noues, on a infiltré. Donc, il faut remettre changer l'îlot de chaleur en îlot de fraîcheur. Ça ne se fait pas facilement. C'est plus facile quand on déconstruit qu'on reconstruit. Mais réellement, il faut supprimer les sources de chaleur. Ça, c'est une évidence.
Et c'est ce dont on va beaucoup parler ce soir. Marcelin est en ligne avec nous au 39-21 à Notre-Dame-de-Mont. On est en Vendée. Bonsoir, Marcelin.
Oui, bonsoir.
Alors,
vous êtes
Vendéen, mais vous étiez à Strasbourg hier, si j'ai bien compris.
Eh bien voilà, c'est ça. J'ai passé quelques jours à Strasbourg là, et effectivement, je voulais témoigner du fait que c'est quand même assez formidable quand on approxime les 40 degrés de pouvoir se promener sous des arbres et avoir la fraîcheur naturelle avec le jeu des courants d'air. Et vraiment, c'est extraordinaire d'avoir pu apprécier à Strasbourg les îlots de verdure où on a pu comme ça mieux résister à la chaleur. Et surtout que il y avait aussi des petites fontaines par-ci par-là qui permettaient effectivement d'avoir ce sentiment de se rafraîchir. Et je pense que sans être un technicien, je voulais simplement apporter mon témoignage pour dire que vraiment oui, on a beaucoup apprécié les ombrages et peut-être qu'il faut remettre un peu de naturel dans nos villes plutôt que d'avoir des grandes surfaces imperméabilisées comme le soulignait votre interlocuteur à l'instant.
Michel Carrière, c'est ça ce que vous appelez des îlots de fraîcheur ?
Oui, en fait c'est introduire vraiment vous avez les photos, c'est assez extraordinaire, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut imaginer que les villes que nous construisons, que nous continuons à construire, sont trop minéralisées. C'est-à-dire qu'on ne retrouve pas dedans ce qui fait notre propre constitution, on n'a pas besoin d'être constamment... De la même façon, l'eau, elle peut... On n'a jamais vu d'orteils qui se sont noyés dès lors que vous infiltrez l'eau. C'est pas... on a tout voulu mettre... faut lutter contre le tout à l'égout. C'est un très gros problème. La culture française a été d'enfouir tout. Il faut aller à l'encontre de ce genre d'idées. Et évidemment...
C'est une question d'équilibre, finalement. Si je vous suis, je voudrais juste reprendre peut-être sur la minéralisation de nos espaces.
Il faut infiltrer l'eau là où elle tombe.
Il faut infiltrer l'eau là où elle tombe.
Et la faire ressurgir quand elle est enterrée. Nous, on a fait ressurgir un RU qui est un affluent de Seine.
Qui avait été enfoui pour la construction.
On l'a fait
des
ressurgir sur 500 mètres. L'objectif, dans les 2-3 ans qui arrivent, c'est de le faire ressurgir en partie aval, de le remettre à l'air libre. C'est-à-dire que l'eau, par un simple phénomène, va nous amener de la fraîcheur. Et ça, c'est quelque chose de tout à fait.
Éric Guilherdi ?
Oui, c'est effectivement extrêmement important du point de vue météorologique de garder de l'eau sur le sol. Puisque quand la chaleur arrive, elle va d'abord faire évaporer l'eau. Et c'est quand il n'y a plus d'eau à évaporer que la canicule arrive. Donc c'est vraiment important de garder. C'est pour ça qu'en fait, dans la campagne, la canicule arrive plus lentement. Parce qu'il y a encore plus d'eau disponible à l'évaporation. En ville, il n'y a pas beaucoup d'eau. Donc ça s'évapore beaucoup plus rapidement et ça chauffe tout de suite.
Parce que quand il fait très chaud, l'eau s'évapore. Cette évaporation-là aide à rafraîchir. Voilà, tant qu'il y a de la matière à évaporer, si on comprend bien.
Exactement. C'est quand il n'y a plus d'eau à évaporer que le sol chauffe.
Erwan Cordeau ?
Et c'est d'autant plus important puisque le végétal a besoin d'eau. Donc la réserve en eau utile du sol permet par exemple à un arbre de développer son système racinaire et d'aller puiser cette eau du sol pour avoir un bon fonctionnement d'évapotranspirateur, donc un climatiseur passif.
Tout ça, c'est vraiment une question d'équilibre. Quand je vous écoute, on a tout misé sur le béton. Alors, ça pourrait être autre chose que le béton, mais quelque part, c'est du bon sens de s'adapter au climat autour de nous. On sait très bien que dans le sud, les maisons ont des murs plus épais, qu'on va avoir cette possibilité d'être dans l'obscurité. Pour l'été, on l'a toujours fait à travers le temps que de s'adapter. Et lundi soir, en écoutant cette émission à laquelle je ne participais pas, mais je l'ai écouté comme auditeur, j'entendais que, échéance 2070, le climat parisien serait celui de Séville. Et qu'en d'autres termes, Séville, on peut y vivre, des humains y vivent, mais notre habitat, nos infrastructures dans les villes françaises ne sont pas prévues pour la chaleur de Séville.
C'est vrai que historiquement, on explique aujourd'hui pourquoi nos villes sont sèches, on va dire. Il y a eu notamment la période de fin du 19e avec les mouvements hygiénistes. On avait à combattre des épisodes de choléra, de tuberculose. Et donc, on a ouvert la ville. C'est vrai, par exemple, Paris, on a ouvert la ville avec des boulevards plantés qu'il faudrait retrouver aujourd'hui. On a aéré un peu le tissu, on a créé des espaces verts. Mais inversement, on a chassé l'eau qui était vecteur de miasme. On a effectivement, les marais insalubres ont été, les rivières ont été enterrées. Et donc aujourd'hui, on se dit, on a un manque d'eau, et comme on en parlait, et on a des projets pour de résurgence de forêts enterrées, de rivières enterrées, comme la Bière, par exemple, qui est assez symbolique pour l'Île-de-France. Mais il y a d'autres projets comme ça. Donc la question de la pleine terre, la végétalisation et de l'eau, dans ses défis, effectivement, la chaleur, effectivement, il y a des épisodes orageux plus importants qu'on nous annonce. Donc il faut gérer ce ruissellement. Donc le système qu'expliquait M. Carrière est très intéressant, des nous qui infiltrent sur place, etc. Et en même temps, il faut penser à des réservoirs d'eau. Il faut penser aussi à mettre en cohérence aussi un peu de récupération d'eau pour le service fraîcheur d'une végétation épanouie, etc.
Michel Carrière ?
Oui, moi, si vous voulez mieux, je pense que... Alors déjà, on a des règlements un peu curieux. Pourquoi l'eau pluviale qui tombe sur un toit, elle ne va pas dans les toilettes ?
Par exemple ?
Par exemple. Pourquoi y mettre de l'eau potable ? Deuxièmement, la ville, on l'a construite en enterrant tout. On voit bien, on sait bien qu'en déterrant ou en sortant les réseaux, on peut très bien fonctionner. Le problème aussi, mais il ne se tient pas qu'à ça aussi, il faut admettre une chose, on parle de carbone aussi. La mobilité, quand vous faites la mobilité douce, vous polluez moins. Donc mettre des liaisons douces dans votre réseau communal de voirie, ça veut dire qu'à un moment donné, vous faites un transfert, vous n'avez plus, vous polluez beaucoup moins. Donc la question de la production de carbone, le bilan carbone est une obligation à faire. Toutes les opérations devraient avoir des bilans carbone. Et d'ailleurs, il y a une stratégie nationale de bas carbone. Il faudrait un petit peu accélérer tout ça et mettre des limites, des obligations. Il faut savoir qu'un plan communal, un PCAET, un plan climat air territoire, air énergie territoire, s'impose au plan communal, au plan local d'urbanisme. Si vous avez un plan local d'urbanisme et que vous avez un plan communal, un plan climat air énergie territoire contraignant au niveau du bas carbone, vous commencez à réduire les émissions. Donc là, on participe bien à quelque chose qui se révèle être un vrai cercle
vertueux,
qui devient plus vertueux. Et en fait, le végétal prend une place extrêmement importante. Mais comme vous le disiez tout à l'heure, le chercheur le disait, le carbone, deux émissions fortes, c'est le bâtiment et la mobilité. Après, le reste, l'aménagement, on tombe sur quoi ? On tombe sur quelque chose qui a un rapport direct à la santé, un rapport direct au plaisir. Et puis, après, c'est la question de la beauté. Les villes bétonnées, on a eu des conditionnements à imaginer la ville comme une sorte de milieu aseptisé. Vous imaginez qu'on a utilisé des produits phytosanitaires pendant des décennies, sans imaginer que ça polluait la nappe phréatique, alors que ça ne changeait rien à l'état de la ville. Nous, on a arrêté ça en 2008, les produits phyto, parce que ça ne sert à rien. Et pourtant, on imaginait une herbe comme étant un élément de salissure dans l'élément dans l'urbanisme.
Mais encore aujourd'hui, c'est complètement débile. Hein. 19h39. Europe 1. Encore aujourd'hui, hein, certains protestent hein, qu'on ne désherbe pas, que ce soit en ville ou sur le bord des routes. Les mentalités sont en train d'évoluer. On continue de parler de la ville de demain, finalement, avec mes invités. Il est 19h39. Vous restez bien sur Europe 1 et je remercie Marcelin qui nous avait appelé au 39-21.
Vos invités, Mathieu Béliard, jusqu'à 20h sur Europe 1. Michel Carrière, élu depuis 2001, adjoint au maire des Mureaux, chargé du développement durable, de l'environnement, de la mobilité. Éric Guilliardi, climatologue à l'Institut Pierre-Simon Laplace, directeur de recherche au CNRS, et Erwan Cordeau, ingénieur spécialiste climat à l'Institut d'aménagement de l'urbanisme d'Île-de-France.
D'un mot très simple, Erwan Cordeau, aujourd'hui, quand on est ingénieur, quand on travaille sur l'aménagement, sur l'urbanisme, ces données de réchauffement climatique, ce sont des données qu'on utilise maintenant, qu'on a en tête, on construit avec cette donnée-là.
Oui, on regarde ces données-là avec d'autant plus d'importance que d'intérêt que la ville, la construction de la ville, c'est le temps long. Donc, il y a comment refaire la ville pour qu'elle soit beaucoup plus équilibrée. On l'a vu entre le minéral et le végétal, on va dire. Comment repenser une ville qui se construit lentement, hein, 2 à 3% par an. Donc, déjà, c'est faire avoir une attention particulière sur la construction neuve à différentes échelles, jusqu'à l'échelle du quartier, que ce soit très vertueux. Et donc ça, c'est une gageure de réussir déjà ça. Et puis ensuite, c'est travailler sur l'existant, notamment de gros efforts à faire sur la rénovation énergétique. Et là, on voit déjà la complexité. On a mis un accent sur, effectivement, la chaleur, l'hiver, donc effectivement, la question de l'isolement. Et il faut gérer aussi la question du confort d'été. Et donc, en évitant, si possible, la climatisation et ces rejets secs de chaleur dans l'environnement, dans cet environnement de la rue qui surchauffe.
Parce que simplement d'un mot, la climatisation, c'est une... Alors, nous, on est en France, on utilise une électricité qui est à 75% est nucléaire, donc au niveau des émissions de gaz à effet de serre, ça va. En revanche, la climatisation dans beaucoup de pays. Non, mais
faut les construire.
Sans rouvrir le débat pour ou contre.
Faut les déconstruire, on ne sait pas encore. Hein.
Voilà. Non, mais c'est ce que
regardez tout le cycle de vie.
Oh, attention, les amis, je marche sur des œufs. Mais je voulais dire que ce n'est pas le débat du nucléaire en France, mais qu'en revanche, la clim, il ne faut pas l'oublier, quand elle vous envoie du froid à l'intérieur, elle envoie du chaud dehors.
Sur les modes les plus répandus, oui, actuellement, c'est ça. Maintenant, il y a des solutions innovantes de climatiseurs plus passifs. Donc voilà, il faut aller là-dessus. Mais c'est des effets, effectivement, que l'on voit aujourd'hui. On a des estimations de rajout de 2 à 3 degrés. Si, effectivement, d'ailleurs, dans le monde de l'habitat, parce qu'on est très peu climatisé dans l'habitat chez nous, on allait sur des climatiseurs.
Oui, mais alors ça change. Ça change. Et quelque part, ça, j'imagine que ça vous inquiète un peu, Éric Guilliardi, de savoir qu'aujourd'hui, quand on fait des travaux, quand on achète un appartement à Paris, en région parisienne, on va plus facilement, beaucoup plus qu'avant, installer des clims, tout simplement parce qu'on sait que ça va se réchauffer.
Alors, vous disiez tout à l'heure qu'on s'attend à voir à Paris le climat de Séville. Moi, ce que je voudrais dire ce soir, c'est que rien n'est écrit. Ça, c'est vraiment important. Jusqu'à présent, on avait 3-4 jours de canicule en moyenne par an, si on fait une moyenne sur 30-40 ans. Là, on va passer à 5, 6, 7 avec un réchauffement. Là, on est déjà à 1 degré de réchauffement.
Ça, c'est acquis. Hein. Ça, voilà. C'est acquis.
1 degré de réchauffement. Si on arrive à 2 degrés, 6, 7, si on ne fait rien, c'est-à-dire si on ne réduit pas fortement nos émissions de gaz à effet de serre en suivant l'accord de Paris, on arrivera à 30 jours des canicules. Donc là, on parle. Là, l'adaptation, on ne sait même pas si on sait la faire.
Ça veut dire qu'un mois par an, on vivra comme on vit cette semaine sur le pays.
Donc, pendant les vacances.
Voilà. Donc en fait, et pas pendant les vacances. Et donc aujourd'hui, on est face à un choix. Un choix, un niveau de risque. Quel niveau de risque on est prêt à accepter ? À quel coût ? Est-ce qu'il vaut mieux travailler ? Bon, certes, il va falloir s'adapter un peu, on parle, il y a des solutions qui existent, mais il y a un moment où les coûts vont l'emporter sur réduire nos émissions au niveau international. C'est pour ça que c'est vraiment important de travailler à l'accord de Paris, mais en France aussi, de voir au niveau de nos émissions, qu'est-ce qu'on va pouvoir réduire. Donc c'est le choix aujourd'hui, il est là. Donc tout n'est pas écrit. Bien sûr, il va falloir s'adapter, mais il y a encore, entre s'adapter à un monde à plus 1,5, plus 2 degrés, ou un monde à 4 degrés, ce n'est pas la même chose. Alors souvent, les gens disent, bon, 1 degré, 2 degrés, 3 degrés, mais quand dans une même journée, on a 15 degrés de variation, ça ne vous semble pas beaucoup. Mais prenez votre température à vous. Aujourd'hui, on a plus 1 degré, 38. On a un peu de fièvre. Bon, on peut prendre le risque de sortir, ça passe. Plus 2 degrés, 39. Ah, là, 39, on reste chez soi. On se soigne. On limite les risques. Plus 4 degrés, si vous êtes encore en vie, vous êtes en réanimation à l'hôpital. Le climat, c'est pareil. C'est un réglage fin. Chaque demi-degré, donc chaque action, va compter.
Vous allez presque reprocher dans ce débat, et je vous pose la question à dessein, d'avoir capitulé, finalement.
Exactement. Il faut continuer à se battre. Certes, les gens se disent « bon, je vais mettre de la clim, ça va résoudre ». Et moi, je le trouve assez excitant et motivant, c'est que les gens ont compris. Il y a vraiment un mouvement de fond, on le voit chez les jeunes, on le voit chez les entreprises, on le voit tous les
jours au 39-21. Voilà.
Et vraiment maintenant, c'est plus un problème qui appartient aux climatologues. Pendant longtemps, ça fait 25 ans qu'on tire ce débat. Ça y est, ça a été entendu. Maintenant, c'est à tout le monde de se mettre autour de la table, d'évaluer les risques. Qu'est-ce qui est important pour nous? Qu'est-ce qu'on veut sauvegarder? C'est quoi nos valeurs? Et ensemble, de trouver les solutions. Il y en a plein.
19h46. Europe 1. Je ne parlerai même pas de politique, hein, parce qu'on est passé d'une époque à t'es écolo, moi je suis pas écolo, etc. Moi je suis un meilleur écolo que toi maintenant.
On peut parler du Haut Conseil pour
Mais le Haut Conseil pour le Climat, je recevais Corinne Le Quéré qui préside le Haut Conseil pour le Climat hier.
Et son premier rapport est extraordinaire.
Ça appelle un chat.
C'est bien.
19h46, le climat et la vie dans nos villes aussi. Je vais rappeler que la moitié de la population vit en zone urbaine dans ce pays. Le débat qui continue jusqu'à 20h avec vous au 39-21.
Vos invités sur Europe 1, Mathieu Béliard jusqu'à 20h. Erwan Cordeau, ingénieur spécialiste climat à l'Institut d'aménagement et d'urbanisme d'Île-de-France. Michel Carrière, élu depuis 2001, adjoint au maire des Mureaux, chargé du développement durable, de l'environnement, de la mobilité. Éric Gilliardi, climatologue à l'Institut Pierre-Simon Laplace, directeur de recherche au CNRS.
Éric Gilliardi, juste pour rebondir sur ce que nous disions juste avant la pause, vous me dites que les gens prennent conscience, que ça évolue. Alors oui, on le voit, et je vous le disais moi-même avec les appels que nous recevons. Seulement, je reviens à ce que je disais encore avant. On installe des clims aujourd'hui quand on refait des travaux, c'est qu'on n'a pas encore complètement compris. Et d'un autre côté, si jamais dans deux semaines il faisait que 12 degrés en Vendée, on nous dirait le réchauffement climatique, il fait froid pendant mes vacances.
Alors c'est pour ça qu'il y a un travail dans le temps long. C'est vrai que c'est pas quelque chose de facile, hein, et nos élus ont un rôle important, nos ingénieurs aussi, et tout le monde. C'est la météorologie, c'est au jour le jour, le climat, si on se passe sur du temps long. Donc le travail dans le temps long, c'est par exemple de faire ce qui a été fait en Nouvelle-Aquitaine, un travail de longue haleine pendant plusieurs années. On a mis tous les experts ensemble, fait ce rapport Acclimaterra, sur voir quelles sont les vulnérabilités et comment on peut y répondre. Et donc ça donne un guide d'action aux politiques pour pouvoir agir, indépendamment de la météo.
Michel Carrière.
Oui, moi, écoutez, je pense que on peut être très optimiste sur une volonté forcenée. Et là, en ce sens-là, je suis d'accord avec vous. On n'est pas toujours, on est parfois pessimiste avec l'intelligence. Et pourtant, on sait que notre intelligence et notre technologie nous disent qu'on peut tout faire. On peut construire bas carbone, on peut fonctionner bas carbone. Le problème, c'est une question de volonté forcenée. Et tous les acteurs n'ont pas cette volonté. La difficulté, c'est de se battre.
Mais vous, à votre niveau, vous êtes un élu local, vous êtes adjoint au maire des Mureaux, je le rappelle. Et je n'ai peut-être pas assez rappelé dans ce débat les Mureaux. On est sur une ville de banlieue parisienne. On est à quoi? Une trentaine de minutes de la capitale.
Oui,
la capitale.
À peu près 40 kilomètres de Paris.
Et on est dans l'incarnation de ce qu'est la ville de banlieue qui est montée sur pierre pendant les 30 glorieuses et que vous contribuez à faire évoluer. Quelles sont les résistances auxquelles vous en parliez, auxquelles vous faites face?
Il y a de très grands partenaires. L'État peut nous aider, mais peut être aussi, n'est pas résilient. Il ne va pas vers la résilience, il ne nous amène pas à ça. Il faut donc avoir une volonté forcenée. Tous les acteurs, quand vous avez une opération, sont parfois là uniquement pour travailler sur des budgets limités. C'est un très gros problème. À un moment donné, c'est vrai, les moyens... Est-ce qu'il vaut mieux pas faire des fois plus petits et moins ambitieux en termes de volume que faire des opérations plus intéressantes en termes de qualité? Et donc, vraiment intégré, nous on a construit quand même l'écoquartier, le premier écoquartier de France, de 420 millions, c'est le premier, c'est le programme en rue, le deuxième de France.
420 millions, c'est le budget ?
C'était le budget. D'accord. sur le programme en rue. C'est le premier écoquartier certifié en 2017, ou labellisé, c'est pas une certification. Donc effectivement, la volonté forcenée, il y a des blocages à tout niveau. Tous les acteurs ont une... Et c'est là où parfois l'État, il y a un problème, c'est qu'il ne fixe pas des limites. On parlait de bas carbone et d'émissions. Mais tant qu'on ne se fixe pas des émissions, des limites d'émissions, c'est intéressant la canicule que nous avons. Pourquoi ? Parce qu'elle n'a pas pris de vacances scolaires. Tous les élèves sont à l'école. Tout le monde va travailler. Et là, qu'est-ce que nous avons ? Pollution. Et donc, fatalement, on reparle de transport, on parle de bâtiments non faits pour recueillir les élèves.
Évidemment, la canicule en mois de juillet, on connaît.
Mais c'est très intéressant de l'avoir
à
juin.
On découvre à l'école qu'on est obligé de déplacer le brevet parce que le parc immobilier de l'éducation nationale est ce qu'il est. Il a l'âge qu'il a et qu'on ne l'a pas pensé.
Mais c'est comme les inondations. L'inondation de 1910 référence, quand on a commencé à se rendre compte que ce qu'on avait construit pouvait être inondé au bord de la Seine, quand bien même c'était des musées, là, on a commencé à se dire, oulala, à moi la peur. Ben, ce sont des épisodes normaux qu'il faut considérer comme des alertes et la prise en compte de tous ces risques et peut-être un peu plus fortement.
Erwan Cordeau.
Moi, je dirais qu'on peut peut-être se féliciter effectivement de cette prise de conscience. Derrière la canicule, on voit, c'est plus difficile d'en parler, la sécheresse. Voilà. Et donc, et aussi le cofacteur de dégradation de la qualité de l'air, notamment l'ozone, qui est un polluant qui marche bien lorsque il y a à partir d'un niveau de température qui se stabilise bien. Et donc on voit aussi les paradoxes que ça montre. Donc un événement comme celui-là, par exemple, s'il y a de la chaleur dans les transports en collectif, eh bien il y a du report aussi sur le véhicule individuel. On se dit on est protégé, on met sa climatisation.
Ah mais c'est donc, terrible. L'endroit où on est le mieux en ce moment là, c'est dans la voiture.
Oui, mais ça met en lumière et donc il y a une alerte. Voilà, ozone.
Évidemment.
Donc, évidemment, on voit que le système, il y a des défis pluriels et ça touche à l'urbanisme, ça touche à plusieurs, effectivement, défis, que ce soit l'urbanisme à l'échelle du bâtiment, qu'on a quand même assez bien traité, on a des solutions. On en a parlé.
On peut construire sans clim.
Voilà, mais maintenant, on commence à parler de l'échelle du quartier et pour parler d'une trame réussie, d'une trame vierge. Voilà.
Pierre est avec nous au standard, au 39-21, depuis la ville de Tours. Et je vais vous poser la question autour de la table, simplement pour terminer l'émission. À vos yeux, où est-ce qu'on vit le mieux aujourd'hui, si c'est en ville ou en zone rurale? Et ça réveille quelques-uns des débats que nous avons eus ces derniers mois, je trouve. Pierre, bonsoir.
Bonsoir.
Vous travaillez en ville et vous vivez à la campagne.
Voilà, tout à fait. Et je suis concerné au plus haut degré, puisque je travaille dans l'immobilier et que je vends des programmes neufs et que je connais l'urbanisme et ses préoccupations et ainsi de suite. Mais ce qui m'interpellait le plus dans le commentaire que vous aviez, c'était effectivement la difficulté de transporter des gens de la ville demain à la campagne. Ce dont je me souviens pour être un rural importé à la ville, c'est que je crains fort que les gens de la ville d'aujourd'hui ne soient plus capables de vivre à la campagne et de s'intégrer dans une campagne.
Mais on peut apprendre.
C'était ça le sujet que je voulais.
On peut apprendre.
Oui, on pourrait apprendre. Mais l'intransigeance et la partie de l'émission sur le vivre ensemble que vous aviez tout à l'heure m'interpeller, c'est que c'est de plus en plus compliqué de vivre ensemble.
Mais j'avais un maire il y a quelques semaines au téléphone qui voulait qu'on reconnaisse les bruits de la campagne, le son des clochers, des coqs et des vaches. Parce qu'il y a des Parisiens qui débarquent et qui disent qu'il y a trop de bruit à la campagne. Là-dessus, je vous suis,
c'était
Pierre. Mais ça s'apprend. Et finalement,
je
pose simplement la question à Michel Carrière. Alors, sans dire que vous avez remis la nature dans la ville, vous avez remis du végétal, mais vous avez apporté des éléments du monde rural, de la campagne, dans une zone fortement urbanisée. Des potagers, des cours d'eau, des îlots de fraîcheur.
Oui, parce que les citoyens, ont, d'abord pour leur propre santé, pour leur mobilité, ils ont besoin de toucher la terre, de produire leurs propres légumes bio qu'on oblige. Hein. Mais ça, c'est particulier, c'est chez nous qu'on fait ça. Par contre, moi, je sais pas, je vis très bien dans la ville où j'habite. Et il y a des hirondelles et il y en a peu. Par contre, les gens, il y a des sites où vous avez les gens qui se plaignent d'avoir des moustiques. Moi, je ne me plains pas d'avoir des moustiques. Je suis content d'avoir des hirondelles. Je trouve qu'il n'y en a pas beaucoup. Il faut savoir quand même que moi, je suis apiculteur. je travaille avec des abeilles qui vont mourir au bout de 35 jours l'été. Elles ont 100 millions d'années. On les fait crever facilement. Et nous, on a, avec Toumaï, ces 7 millions. Il faut se poser la question, à l'échelle du temps, de la planète, un être humain n'est pas plus important à l'échelle du temps qu'une abeille. C'est un point. Donc, reconsidérer que nous avons la même importance que l'abeille, et donc cette, pour ça dire qu'on ne vivra pas la campagne, un peu curieux.
D'un mot, je remercie Pierre qui est avec nous au standard. D'un mot, l'émission est terminée. Eric Gilliardi, vous vivez en ville à la campagne ?
Moi, les deux.
Les deux ?
J'ai la chance.
Vous pouvez alterner comme ça, Erwan Cordo ?
En banlieue.
En banlieue. Oui, mais quelle banlieue ?
Dans une banlieue du sud de Paris. Et dans une maison mitoyenne.
Pas loin de la Bièvre, si je vous suis.
C'est ça.
Par rapport à la conversation que nous avions. Merci beaucoup, messieurs. C'était passionnant. Il y a des débats parfois où c'est comme ça, c'est l'actualité, on s'engueule. Là, vous étiez aussi complémentaires. Erwan Cordo, ingénieur spécialiste climat à l'Institut d'aménagement et d'urbanisme d'Île-de-France. Merci d'être passé par le studio d'Europe 1. Éric Gilliardi, climatologue à l'Institut Pierre-Simon Laplace. Vous êtes l'un des rédacteurs du 5e rapport du GIEC évaluation des modèles climatiques, directeur de recherche au CNRS. Merci beaucoup. Et merci à vous, Michel Carrière, élu depuis 2001 au MUR. On a pu parler du travail que vous avez fourni au Muro. Si vous êtes sur la 13 et que vous partez vers la Normandie prendre un peu de fraîcheur, arrêtez-vous au Muro pour voir le travail de Michel Carrière. Merci beaucoup.
On vous y accueillera.
À très bientôt. Europe 1.